Magazine Théâtre. Interviews, commentaires, rencontres, votre rendez-vous théâtre à Genève.
Anne-Catherine Clément.
Les deux spectacles que nous vous proposons dans ce magazine ont en commun une recherche d'identité. Avant de retrouver Europe, L'Échappée Belle et Marie Fourquet, nous commençons par un spectacle de danse. Perrine Valli, nous sommes ensemble pour parler danse dans ce magazine théâtre. Si dans cette chambre, un ami attend votre nouvelle création, à voir à la salle des Eaux Vives entre le 14 et le 25 mars. Dans une interview en 2010, vous parliez d'une crise par rapport à la danse. Où en êtes-vous à présent, début 2012?
C'est vrai que ça a continué à influencer mon travail. C'était une crise par rapport à mon travail sur la narration. Et puis, c'est vrai que par moment, la danse est un média difficile pour pouvoir parler de choses concrètes, du moins quand on a envie d'aborder des sujets concrets qui sont plus facilement abordables par exemple dans le théâtre ou dans le cinéma. Dès qu'il y a des mots, en fait, c'est toujours plus simple. Donc la crise est plutôt positive parce qu'elle me fait essayer de trouver des solutions.
À travers la danse, en utilisant d'autres médias, comment est-ce que vous travaillez à présent?
Alors, juste après cette petite crise, justement, j'ai fait une pièce qui s'appelait Des Productions, qui était une pièce avec deux Japonais, où il y avait l'utilisation de la danse et du texte. Donc, c'était la première fois que j'abordais le texte dans cette pièce, dans celle que je présenterai à l'ADC. Il y a aussi une petite partie de texte, mais elle a été en tout cas créée à partir de textes d'Emily Dickinson. Donc, elle part au départ d'une matière plus concrète, avec des textes, des poèmes.
Vous venez de le dire, vous avez utilisé des textes d'Emily Dickinson. On doit aussi le titre de ce spectacle à Emily Dickinson. C'est à partir d'elle que vous avez construit le spectacle ou bien vous avez eu tout un patchwork d'influences?
J'ai eu plusieurs influences, mais des influences visuelles, par exemple, avec des peintres comme Hopper ou comme Balthus, mais toujours dans la thématique un peu narrative, un peu théâtrale. C'est vrai que c'est la figure d'Emily Dickinson qui m'a beaucoup influencée. En dehors de ses textes, il y a aussi son histoire, un petit peu, parce que c'est une femme qui est un petit peu déconnectée de son époque. Et puis, elle s'est renfermée dans sa chambre. Donc, elle écrivait dans sa chambre et puis elle vivait dans sa chambre, plus ou moins. Dans sa chambre familiale, dans sa maison de famille. Donc ça m'a inspirée dans la pièce, puisque sur scène, il y a vraiment une chambre et tout évolue autour de cette chambre.
Vous parlez de narration. Ce spectacle tourne autour de la construction identitaire. Comment est-ce que ça, vous le développez?
Alors en fait, donc dans mes autres influences, la base au départ de la pièce, c'était de travailler sur la relation ou sur l'idée du lien, que ce soit le lien amoureux ou le lien qu'on peut avoir avec sa famille ou le lien qu'on a à son art justement ou le lien avec la société. Donc sur scène, il y a cette idée du lien qui est toujours un petit peu présent, qui est comme un fil conducteur. Donc c'est influencé par Emily Dickinson, mais ensuite ça devient effectivement un peu plus abstrait, un peu plus imaginaire, je dirais. Donc on décroche quand même de la narration pour aller dans un univers un peu plus abstrait.
Cette identité, elle est liée au sexe, au fait d'être une femme?
Non, pas directement, bien que ce soit une figure féminine, mais c'est vrai que dans la construction identitaire, il y a évidemment le parcours du féminin et du masculin n'est pas le même, donc la place de la femme est présente, mais beaucoup moins clairement que dans mes autres pièces. C'est plutôt un lien qu'on pourrait avoir dans sa construction identitaire à sa famille, je dirais, à son père, à sa mère, qui peut être un petit peu différent si on a un petit garçon, une petite fille, évidemment. Voilà, c'est une construction identitaire plus large, pas forcément liée à la femme.
Alors on utilise le terme identitaire, on l'a dit plusieurs fois. Le visuel qui accompagne ce spectacle, c'est un corps qui est fragmenté. Est-ce que c'est un lien avec une identité qui elle aussi pourrait être fragmentée?
Oui, je pense, parce que c'est vrai que moi, par exemple, dans les auditions que je passais en danse quand j'étais plus jeune, il y avait toujours cette grande mode de devoir danser sa personnalité ou son identité. Et puis moi, je trouvais ça complètement absurde. Ça me tracassait beaucoup parce que j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avoir une identité ou une personnalité, sachant que je pouvais des fois être très timide, des fois explosive. Enfin voilà, que ça passait par l'identité quand même est beaucoup influencée par... on a une base, mais ensuite par l'extériorité, par des moments, par le temps. Et du coup, cette image-là qui défragmente un peu le corps, c'est aussi une identité qui peut être complexe, qui peut être multiple, tout ça. Après, c'est un corps qui est perdu dans le noir, qui est fragmenté effectivement, mais dans cette image, il est aussi entouré de noir. Et ça, c'est aussi une part de la pièce, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un corps dans un espace noir. C'est une pièce assez sombre.
Une autre part de ce spectacle, c'est la musique qui était composée par Eric Linder. La musique est venue après, pendant. Comment est-ce que vous avez construit avec la musique ce spectacle ?
Il était construit au fur et à mesure depuis le début en fait. Donc on s'est tous les deux parlé de, dans quel contexte on voulait mettre cette Emily ou cette jeune fille finalement, 1% détachée. Donc c'était plutôt un contexte justement nostalgique. Donc on a mis des mots en fait sur les environnements de qui allaient créer la pièce et l'identité de cette femme. Donc il y avait quelque chose qui pouvait être aussi de l'ordre de l'enfance, de l'ordre de l'angoisse. Donc on a mis des mots. Ensuite, Eric m'a donné des musiques déjà pré-créées sur lesquelles moi j'ai travaillé. Et ensuite, c'est comme un ping-pong un peu. Moi, je rebondissais en lui disant que la danse ne fonctionnait pas avec une musique trop rythmée ou au contraire certains passages qu'il m'avait donné fonctionnaient très bien. Donc voilà, on alternait entre comment la danse répondait à la musique en fait.
Là, on parle d'une collaboration. Vous avez conçu et vous interprétez le spectacle. C'est quand même un travail assez solitaire.
Ah oui, dans cette pièce très solitaire, oui.
Vous êtes presque seule parce que vous avez un figurant sur la scène avec vous.
Oui, alors en fait, c'était justement, au départ, c'était l'idée de vraiment de créer un solo par rapport à la figure d'Emily Dickinson qui m'influençait et aussi par rapport à mon parcours où c'est depuis 2007 que j'avais pas vraiment créé de solo et j'avais envie de me replonger dans justement dans ce travail très introspectif et solitaire. Mais comme je travaillais sur le lien identitaire, j'avais beaucoup de mal dans un solo à créer du lien. Donc il me fallait un élément extérieur qui puisse créer ce lien et c'est donc une présence, un figurant qui est comme une présence plus qu'un personnage. Parce que dans les textes d'Emily Dickinson, je me suis spécialement inspirée d'un qui sont des lettres, qui s'appelle Lettre au père, au maître, à l'amant et au précepteur. Et donc elle adresse ses lettres à un masculin, mais on ne sait jamais l'identité de ce masculin. On ne sait pas si c'est juste un dieu, ou si c'est un père, ou si c'est un amant inexistant, ou un amant passé, on ne sait pas trop. Donc le figurant représente cette adresse en fait, ce lien avec plusieurs modèles, effectivement masculins, donc quand même on revient au masculin-féminin. Donc le figurant il a ce rôle-là de créer des liens, mais on ne sait jamais qui est ce figurant, je ne sais pas moi-même, mais ça permettra aussi au spectateur de créer sa propre histoire.
On parle là d'Emily Dickinson, qui est une écrivaine, une poète. Est-ce que vous diriez que votre travail est basé d'abord sur une recherche académique avant la recherche corporelle sur la scène ?
Oui, effectivement, toujours. Il y a toujours, c'est un petit peu bizarre, mais moi souvent, ma partie préférée, c'est créer les dossiers, ce qui est quand même assez rare, parce qu'en général, les chorégraphes, ils détestent. Mais moi, j'aime bien commencer par la construction. Une fois que j'ai fait le dossier, en gros, j'ai déjà beaucoup avancé. Donc, il y a toujours une partie qui commence par, effectivement, des lectures, beaucoup, et puis quelque chose d'assez mental, en fait, avant que ça devienne corporel. Après, c'est l'interprétation d'une recherche plus mentale avec les textes, avec les influences, ce qui peuvent être des films, qui peuvent être des peintures, que j'essaie ensuite de transposer corporellement dans un spectacle de danse.
Merci beaucoup Perrine Valli. Nous parlions donc de Si dans cette chambre un ami attend un spectacle à voir à la salle des Eaux Vives du 14 au 25 mars.
Merci.
Deuxième proposition de ce magazine théâtre, c'est une pièce signée Marie Fourquet à voir au théâtre Saint-Gervais jusqu'au 24 mars, Europe, l'échappée belle. L'Europe, au départ, c'est un questionnement personnel.
Alors, ça l'est devenu, tout simplement lorsque j'ai acquis la nationalité suisse. Je me suis vraiment repositionnée par rapport à ce que c'était l'identité européenne. Ça ne m'a pas du tout posé de problème par rapport à la double nationalité franco-suisse, mais je me suis dit, tiens, en fait, la Suisse n'est pas une identité européenne. Moi, j'ai grandi dans une région pro-européenne qui était le Nord-Pas-de-Calais, région un peu meurtrie par la Seconde Guerre mondiale. Et de ce fait, c'est devenu du coup une question personnelle. Et dans le spectacle, je propose justement une approche un peu plus intime de l'Europe que ce qu'on entend actuellement dans les médias. Voilà.
Buée et moisissure naissante sur les pierres des maisons de la reconstruction. Calais détruite, bombardée. Nous étions faits pour l'Europe. Nous méritions l'Europe. Nous étions l'Europe.
Il y a cet élément qui est assez lointain pour quelqu'un de Suisse et qui du coup a une grosse, un gros impact, c'est ce lien en fait de l'Europe comme vecteur de paix.
Alors je me suis dit tout simplement, je vais écrire un spectacle sur l'Europe, je ne vais pas parler des accords bilatéraux, je ne vais pas parler des normes par rapport à l'agriculture ou des normes européennes, je ne vais pas parler non plus de ce que c'est l'économie, la crise. J'aimerais juste vous dire, pour moi, je crois qu'en fait, quand on m'a vendu l'Europe petite, c'était une union pour la paix. Et si je pars de cette utopie et que je fais une heure et demie de spectacle autour de ça, qu'est-ce qui se passe?
Et pour l'écriture de ce spectacle, il y a eu des voyages aussi.
Du coup, je suis allée à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, comprendre un peu quelle est la question de l'Europe si justement on l'aborde du point de vue de la paix aujourd'hui. Et puis, mon regard vers la Bosnie en deux temps, Sarajevo, l'attentat 14 qui déclenche la Première Guerre mondiale et qui va commencer justement vers la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, le siège de Sarajevo, cette guerre si proche en kilomètres et si proche en temps de nous, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine par rapport à l'Europe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un pays qui est en reconstruction? Et que devient Sarajevo?
C'est un voyage qui est aussi un voyage entre générations. Et il y a ce partage avec la génération précédente dans l'histoire et la génération suivante.
Je fais quelque part le lien entre moi, petite fille, bombardée, c'est un jeu de mots, par mes grands-parents qui étaient meurtris par la Seconde Guerre mondiale. Des trucs idiots qu'il fallait finir son assiette parce que pendant la guerre, quelque chose qui moi, saturait enfant que je n'arrivais plus à entendre. Et moi qui vais avec mon petit garçon à Sarajevo et mon petit garçon qui est suisse, élevé ici, dans un pays qu'il sait, lui, du haut de ses 7 ans, comme neutre et un pays de paix. Et il me dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, en vacances à Sarajevo? Et donc, je fais le lien entre mes grands-parents, moi et mon petit garçon, sur cette identité européenne et sur ce parcours par rapport à la guerre.
Il est la peur de la forêt dans laquelle on s'enfonce, dans laquelle on se perd, noir et touffu. Le loup est libre, il circule librement. Il n'a aucune frontière, il est vu ici, puis la rumeur court, il est vu là et la rumeur se répand. Il laisse derrière lui quelques brebis éventrées. Il s'engouffre à nouveau dans la forêt et attend. Attend qu'on baisse la garde, il souffle, il guette. Il attend que la vigilance s'évapore, que la jeune fille se perde.
L'écriture, elle est fixée avant d'arriver sur scène ou elle est aussi un peu construite avec les comédiens?
Alors elle n'est pas du tout construite avec les comédiens, elle est vraiment fixée avant et les comédiens font un vrai travail d'interprétation à ce moment-là. Après, des fois, ça nous arrive en répétition de discuter sur plutôt l'organisation des répliques, la dramaturgie du texte, mais je fais pas d'écriture de plateau, c'est-à-dire c'est pas des improvisations que les comédiens font et qu'après je retranscris sur le plateau.
Je demandais ça parce qu'il y a une double écriture, une écriture qui est peut-être plus personnelle, plus intime, entre deux personnages qui se répondent, et qui sont peut-être d'ailleurs la même personne qui se répond, et des scènes avec plus de comédiens, des amis qui parlent ensemble. Alors on a cette double notion d'écriture plus proche et plus lointaine.
Exactement, et c'est très joli que vous remarquiez qu'il y a deux styles d'écriture différentes, et c'est très flatteur si vous avez cru que c'était là où on avait fait de l'écriture de plateau à partir de scénettes, de sketchs, des comédiens ou d'improvisation. C'est pas le cas, c'est vraiment des scènes que j'ai écrites, dialoguées, mais j'ai vraiment voulu qu'on sente justement cette rupture entre les deux écritures, justement pour, comme vous dites, ce qu'il y a de près de nous et ce qui est au lointain. C'est vrai que cette héroïne et se coryphées qui sont dans un dialogue monologue sur une écriture qui est plus de l'ordre de la biofiction, une métaphore sur la tragédie grecque, quelque chose qui est plus dans l'intime et dans l'empathie. Et tout d'un coup, clac, rupture, on passe à une soirée entre amis qui est proche presque du sitcom d'M6, tout simplement.
En toute honnêteté, Élise, si tu as besoin de te faire remarquer, la culotte, c'est radical. C'est rock'n'roll. Les allergies, c'est Bobo, Velleda, Mycose et Acarien. D'ailleurs, ton allergie aux poissons crus, si tu t'alimentais en bonne européenne que tu es, c'est-à-dire si tu te disciplinais à cuire ton poisson plutôt que de t'aventurer à tester de la world food branchée, eh bien, tu n'en serais pas là.
Et puis, tout au long du spectacle, il y a ce lien au mythe Europe et qui, en fait, présente assez bien aussi une réflexion qu'on peut avoir maintenant sur l'Europe, quelque chose peut-être d'un petit peu moins intime, mais qui circule bien aussi pour le spectateur à ce moment-là.
C'est vrai que je peux pas faire un spectacle sur l'Europe en disant je vais pas parler, enfin, ce que je vous ai dit un petit peu au début, je vais pas parler de ça, je vais pas parler de ça. Ok, c'est vrai que j'ai essayé d'aller ailleurs, mais à un moment, je suis quand même obligée de répondre à certaines questions sur l'Europe. Je rappelle tout simplement le mythe d'Europe, de la princesse Europe, avec cette histoire de taureau blanc, de Zeus, parce que je trouve intéressant de reparler de ce mythe de grec, à la base. Et puis, bah, je pense que, à travers ces figures et ces symboles de l'Europe, je retrace aussi un petit peu ce que les empreintes de cette Europe que nous on porte aujourd'hui.
Et ce spectacle, l'Europe échappée belle, est à voir au théâtre Saint-Gervais jusqu'au 24 mars.